Radio Champeau.
La radio étudiante de l'Université Champollion d'Albi.
Le jeudi à 16h sur Radio Albigès.
Et suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champeau. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Champeau sur Radio Albigès. Pour cette nouvelle émission, nous recevrons la présidente et la vice-présidente de l'association Hit Story, l'association d'histoire de l'Institut universitaire Champollion d'Albi. Puis enfin, nous vous proposerons notre agenda, comme à chaque émission. Je laisse maintenant le micro à Alice pour notre interview.
Merci Guillaume, donc on est aujourd'hui avec Néis et Noémie qui font partie du bureau d'Hit Story. Donc vous êtes là pour nous parler de votre association. Et pour commencer, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle et le but de cette association ?
Bonjour Alice, déjà. En gros, le but de l'association donc, d'histoire, c'est de rassembler justement les étudiants d'histoire autour de soirées, par exemple les quiz, des ciné-clubs ou des soirées hautes, par exemple au Cambrinus, et pour rencontrer justement les étudiants des nouvelles promos, par exemple les L1, ou même faire plus connaissance entre L2 et L3. Et même de rencontrer les autres filières. Par exemple, récemment, on a fait une soirée avec les Géos et ça nous permet de les connaître un peu mieux, quoi.
Donc ça permet justement de créer une sorte de sentiment peut-être d'unité entre les différentes matières, créer une cohésion, entre guillemets, pour la licence, quoi.
Ouais, si, on peut dire ça, oui. C'est surtout aussi un moyen de se réunir dans un contexte autre que les cours ou à la BU pour bosser. C'est aussi pour se détendre, apprendre à se connaître un petit peu mieux, comme a dit Naïs, et aussi créer cette cohésion, forcément, voilà, entre les trois promos, entre les L1, L2, L3, et voire même au sein d'une même promo, parce que on est souvent nombreux dans une promo. Enfin, par exemple, nous en L2, on est 60, on se parle pas tous, quoi. Donc c'est ce genre de soirée, ça aide à créer le contact.
Et ça, vous y arrivez à attirer toutes les histoires qui soient tous ensemble réunis autour de ces soirées?
Alors,
c'est compliqué.
Ouais, c'est à peu près le mot, en fait. L'année dernière, on a eu quelques soucis avec l'asso, donc elle est un peu morte, on va dire. Et cette année, on tente tant bien que mal de la faire revivre, en fait. On ne peut pas rentrer dans les détails. On a eu un changement de bureau l'an dernier en plein milieu du semestre, donc il y a beaucoup d'événements qui ne sont pas faits. Et justement, donc la promo des L2 de cette année ont une très très mauvaise image de l'association. Et moi, en tant que présidente cette année, j'essaye de justement un peu redorer le blason, quoi. Enfin, le but, c'est vraiment qu'on retrouve l'esprit qu'on avait avant, c'est de discuter, de s'entraider justement et de se voir autre ailleurs que les cours ou dans la fac. Et ça marche plutôt bien. Les L1 sont assez motivés cette année. Bon, les L2 ont encore un peu de mal, mais on a remis des événements qui avaient plu. Justement, les Inc et Histoire, par exemple, on en fait le 12 février.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est un peu comme un café géo, c'est justement on se retrouve au bar Le Cosy à Albi et on fait un débat sur un sujet d'actualité et on le rattache le plus possible à l'histoire. Donc le premier s'ouvre le 12 février au Cosy à 21h par deux étudiants de L3, donc Venant, c'est moi-même, et on travaillera sur l'immigration hispanique aux États-Unis et la notion de frontière. Donc justement, c'est l'occasion de discuter, d'échanger sur les sujets qui sont d'actualité. Voilà.
Mais du coup, toutes ces actions, elles sont ouvertes un peu à tout le monde ou c'est réservé que pour les historiens ?
Non, on n'est pas une asso qui est fermée envers le reste de la population du tout. C'est des événements auxquels tout le monde peut assister, comme les Inc et Histoire ou même dans les soirées quiz. Dans les soirées quiz, il y a plein de gens qui sont pas du tout en histoire, voire même pas du tout de la fac, qui viennent et qui participent et qui prennent plaisir à le faire. Donc c'est plutôt cool. Après, on est ouvert sur ça. Donc
on est l'association des étudiants d'histoire, mais en vrai, au final, notre but premier, c'est vraiment de faire une cohésion entre les promos. Mais en vrai, le mieux, c'est de connaître un peu tout le monde et justement les différentes filières des SHS, par exemple.
Et SHS, qui veut dire
sans humaine et sociale, ouais, pardon. Et justement, pour enlever un peu cette compétition qui existe depuis toujours, en fait, entre justement ces étudiants-là, par exemple, avec, je veux dire un truc tout bête, les histoires et les géos, c'est la légende qu'on se déteste, que voilà. Alors que pas du tout, au final, on s'entend très bien avec les géos, enfin, du moins avec le nouveau bureau de Géolion, ça se passe super bien. Et le but, c'est de rencontrer un max de gens et enfin de s'amuser ou d'apprendre de nouvelles choses à chaque fois.
Oui, de partager des moments et des savoirs entre guillemets.
Ouais, c'est ça en fait. Moment.
Comment est-ce que vous gérez la communication pour donc ces soirées, ces quiz
Alors, en fait, nous avons une chargée de communication qui s'appelle Clara, qui est en deuxième année avec moi et qui s'occupe de tout l'aspect communication. Donc après, comment on fait? Ben, on a des affiches quand on se les fait pas voler. On a aussi la communication via les réseaux sociaux avec la page Facebook Hit Story et aussi sur la page des licences, enfin de la licence en général, où on poste énormément de messages. Après, il y a les groupes Facebook aussi avec Messenger et c'est aussi avec le bouche à oreille notamment et aussi les mails, beaucoup les mails.
Après,
Du coup, vous avez dit qu'on vous a volé les affiches.
Oui,
c'est le grand mystère de cette année, en fait.
C'est le mystère absolu de toutes les associations.
Enfin, on a un gros souci cette année. On s'est rendu compte que la plupart des affiches qui portaient notre nom étaient arrachées dans la fac. Donc,
pas trop pourquoi, ni qui fait ça.
Donc, si elle nous écoute, si elle peut arrêter, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment chiant.
Ouais, c'est vraiment pénible. Dépenser de l'argent pour rien aussi, c'est agaçant.
Et justement, je rebondis sur l'argent.
oui, les sujets qui fâchent toujours.
Justement, par rapport à ce financement, comment est-ce que vous arrivez à faire vivre cette association et à pouvoir faire des associations et à faire des soirées?
Voilà, là, pour l'instant, on essaye de se sortir la tête de l'eau. C'est un peu compliqué dans le sens où on n'a pas énormément de sous et que les étudiants veulent toujours plus au niveau des soirées, sauf que c'est compliqué d'organiser une soirée quand on n'a pas énormément de moyens. Et que la plupart, il faut trouver un endroit pour pouvoir faire la soirée, il faut pouvoir financer aussi la promo de la soirée, et puis faut pouvoir faire venir les gens aussi. Donc c'est compliqué, c'est de l'argent et c'est beaucoup de temps aussi. Donc
il y a pas que ça aussi. C'est surtout que par exemple pour les soirées justement dans les bars d'Albi, il faut s'y prendre l'année d'avant. Et comme l'asso n'existait pas l'an dernier, aller trouver un bar qui veut bien vous accepter, c'est un peu galère. Mais c'est surtout que même sur les soirées gratuites, les étudiants d'histoire ne viennent pas. C'est ça le problème, c'est que pour l'instant on a fait pas mal de soirées. Par exemple, les soirées quiz étaient payantes, étaient à 2 euros. Pour l'entrée est gratuite pour les adhérents de l'association. Les ciné-clubs sont totalement gratuits. Les soirées au Grand Brinus sont gratuites. Et on a compté, je crois, sur une soirée du Grand Brinus gratuite, on a 7 personnes d'histoire qui viennent. Donc, c'est pas l'idée de dire aux gens, ouais, faut venir et tout parce que c'est gratuit, mais c'est surtout que s'ils veulent faire des soirées, des grosses soirées comme on a eu au Cordelier là récemment avec les Géo, il faut payer le bar, il faut payer la soirée, ils font pas ça gratuitement, et pour payer la soirée, il faut des sous. Mais s'ils viennent pas aux soirées gratuites, donc je peux pas envisager de faire des soirées payantes. Enfin, c'est logique, enfin, si vous êtes 7 personnes sur une soirée gratuite, comment vous voulez qu'une soirée payante, on ramène plus de gens? Donc en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il faudrait que les étudiants d'histoire se réveillent un peu.
Vous avez la fac, par exemple, qui vous subventionne?
Pas du tout.
Absolument
pas. Pas du tout.
Les associations, c'est entièrement nous.
C'est ça le problème.
Et nos bénéfices, c'est tout.
Il n'y a pas la mairie, le département, enfin j'en sais rien.
Alors là, pas du tout. En fait, le problème, c'est qu'on avait demandé à un FSDIE s'il y a une demande d'aide de financement par rapport à... Enfin, la fac, chaque année, a une enveloppe pour les associations. Et cette année, c'est levé, je crois, à 23 000. Euros. Et à chaque projet qu'on demande, on peut obtenir la moitié du financement de notre projet. Bon, par exemple, si je veux faire une soirée à 1 000 euros, ils peuvent me payer jusqu'à 500 euros. Le problème, c'est que pour faire ce genre de soirée, il faut donc faut faire des devis et tout, ça c'est pas le souci, c'est qu'il faut que ce soit bénéfique pour la fac. Vous voyez? Donc, si je veux faire une soirée, par exemple, je sais pas moi, au feeling où le patron me demande 200 euros pour la soirée, je peux pas justifier auprès de la fac que c'est un événement pour la fac, en fait. Je sais pas si vous me voyez. C'est vraiment, il faut que ce soit bénéfique à l'université, sauf qu'une soirée au feeling, en quoi c'est bénéfique pour la fac, en fait?
Ouais, c'est ça. Il faut que ce soit bénéfique pour la fac, mais pas pour les étudiants.
C'est ça, en fait. Le principe, c'est un peu mal fait. C'est qu'il faut que ce soit bénéfique pour l'université. Donc, par exemple, là, il y a Complot sur le campus qui a pu obtenir un financement parce que c'est bénéfique pour l'université. C'est fait sur l'université. Mais nous, en faisant des soirées à côté, par exemple, une soirée à un ciné-club qu'on voudrait faire payer, c'est pas bénéfique à la fac, donc on ne le fait pas payer. Enfin, on peut pas avoir un financement dessus. C'est ça le problème. C'est ça qu'on reproche pour le FSIIE.
Je me permets juste par rapport à ce que tu dis, moi je peux comprendre le fait qu'on donne des subventions pour promouvoir quelque chose. Si c'est la fac qui donne les subventions, c'est logique qu'ils s'attendent à ce que ce soit un événement qui se passe sur, au moins sur la fac. Pas forcément avoir des répercussions sur la fac ou quoi que ce soit, mais par exemple, tu parles d'un ciné-club, tu peux organiser un ciné-club au foyer par exemple, et dans ce cas-là, le FSIIE te subventionnera la moitié de ton événement si tu l'organises au foyer, non ?
Ben, normalement, je l'organise par exemple au foyer, c'est comme je le fais gratuitement et que les DVD ont s'arrangé avec les bibliothèques pour pouvoir les diffuser parce qu'elles ont payé, elles, en supplément un droit d'auteur. Donc en fait, ils vont rien me donner. Mais si je fais une soirée, par exemple, je décide de faire un grand loto, par exemple, sur la fac, qui rapportera quelque chose à la fac de bénéfique, là, ils me le financeront. Alors, par exemple, les Inquiets Histoires, on les fait gratuitement. Nous, ça nous demande un peu de temps. Par exemple, moi, ça me demande un peu de temps pour préparer le débat. Enfin, ça se fait pas du jour au lendemain, on va pas se mentir. Mais le COSY nous prête les salles gratuitement. Mais si je demande un financement auprès de la fac, ils vont me dire non. Parce que c'est pas bénéfique pour l'université. Il faudrait que j'organise un truc sur le campus. Sauf que le problème, c'est que, on va pas se mentir, mais faire un débat qui peut durer entre deux, voire des fois, il y en a certains débats qui ont duré quasiment 4 heures sur la fac. Déjà, il faut avoir une autorisation spéciale, parce qu'à passer 20 heures, l'université ferme ses portes. Donc, c'est un peu le bazar, je vais dire. Et faut garder des gens assis dans un amphithéâtre, c'est long. Alors qu'au COSY, je vais pas promouvoir l'alcool, mais on peut boire une bière tout en écoutant le débat. Donc c'est vrai que c'est déjà d'une, c'est un peu mieux, quoi. C'est un peu plus chaleureux et on va pas se mentir que la fac, elle est un peu glauque de nuit, quoi. Donc voilà.
Tu parlais d'organisation de débats comme ça qui peuvent finir peut-être un peu plus tard. Il faudrait peut-être voir, c'est juste une idée qui me traverse l'esprit, peut-être vous mettre en lien avec l'Université pour tous qui font des conférences sur la fac qui des fois finissent plus tard. Donc peut-être que si vous voulez organiser des choses aussi dans l'amphithéâtre, même peut-être bénéficier d'ailleurs de leur réseau du coup pour promouvoir un peu l'événement.
C'est ça, c'est
à voir. C'est juste une idée qui me traverse l'esprit.
Mais ça, l'Université pour tous, on en avait commencé à en parler l'an dernier avec l'ancienne présidente. Et le problème, c'est que il faut s'y prévoir. Il faut y prévoir à l'avance. Et là, c'est le même souci que l'an dernier, c'est qu'il faut s'y prévoir l'année d'avant. Et donc, on retombe sur les problèmes qui s'est passé l'an dernier. Donc là, on tant bien que mal, on va essayer de la remettre à flot pour que moi, quand je vais quitter donc l'université, si tout se passe bien, je croise les doigts hein, pour en finir cette année, on va pas se mentir. Mais quand je vais quitter l'université, c'est ce qu'on a mis en place. C'est un peu bête, ce qu'il y avait pas avant, c'est que j'ai pris en tant que vice-présidente une L2. Et les postes importants, par exemple, ma trésorière a pris une L2 aussi, justement pour les former à ce qui les attend l'an prochain. Donc, en fait, c'est le but de ne pas se retrouver comme nous, on s'est retrouvés, c'est-à-dire on nous a donné les papiers et la caisse, on nous a dit « démerdez-vous », voilà. Et on nous a dit clairement « voilà l'assaut, vous avez les papiers, vous vous débrouillez avec ». Donc, c'est vrai que ça a été un peu galère. Donc, on avait essayé de faire en place avec l'ancienne présidente de mettre les gros événements du semestre dernier. Manque de pause, tout s'est pas déroulé comme prévu, mais ça va. Mais là, c'est ce qu'on a fait. J'ai formé Noémie pour reprendre le poste. Je lui ai montré comment on organise les événements et tout. Et là, normalement, l'année prochaine, si tout se passe bien, on n'aura rien à faire à part renouveler le contrat avec les bars.
Mais avant de poursuivre notre interview, nous allons écouter un extrait du dernier album de Amy Mind qui sera en concert ce vendredi 8 février à Saint-Sulpice-la-Pointe.
Supposed to do.
C'était donc un extrait du dernier album de I'm in Mind, qui sera du coup en concert ce vendredi 8 février à Saint-Sulpice-la-Pointe. Nous sommes toujours avec la présidente et la vice-présidente de History, donc l'association d'histoire de l'Institut universitaire Champollion d'Albi. Et vous êtes toujours sur Radio Champeau, sur Radio Albigès.
Et comment est-ce que vous arrivez à motiver justement des étudiants qui sont plus jeunes, qui ont par exemple pour les L2 pas connu l'association l'an dernier, enfin parce que c'est diriger une association c'est quand même un certain taf, et comment est-ce que toi t'as réussi à te motiver à reprendre peut-être le flambeau ?
Elle a pas eu le choix en fait.
J'avais le choix, j'aurais pas voulu, je l'aurais pas fait, c'est pas le...
Tu peux tout nous dire ici.
Non mais oui, je me doute bien quand même. Non, c'est juste de la motivation perso, parce que c'est vrai que l'assaut l'année dernière on en a pas eu, et que j'avais vraiment envie de contribuer en fait au retour de l'assaut finalement, et au fait de pouvoir mettre des événements en place, etc. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout, enfin, le milieu associatif, moi j'ai jamais été confrontée, j'avais envie d'apprendre dans ça. Puis on va pas se mentir, genre des fois sur un CV ça peut toujours sauver. Et ouais, non mais tu rigoles, non, mais c'est vrai. Et en plus de ça, ouais voilà, non, après moi je savais à peu près qui c'est qui allait se présenter dans le bureau, et je savais que on allait être une équipe assez avec une bonne ambiance, qui allait vouloir en fait faire changer les choses et faire évoluer l'asso et la faire bouger et organiser plein de choses. Donc je me suis dit franchement, à tenter quelque chose, autant le faire là parce que je pense que ça va réussir, que je savais que si j'avais su ou que je m'étais douté que ça allait foirer, je l'aurais pas fait. Après je dis pas que c'est qu'on est en train de plonger, c'est pas ce que je dis.
Non, après je pense que, enfin, je veux pas m'avancer, mais il y a aussi le fait qu'on se connaisse déjà d'avant.
Oui, aussi
c'est le fait qu'on se connaisse et le fait qu'on soit assez motivé. Enfin, je voulais pas quitter l'université en me disant qu'on avait tout foiré l'an dernier. Et que cette année, en fait, je voulais pas leur laisser une asso qui était complètement morte, quoi. Mais ouais, on fait ça dans les règles cette année.
Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des actions que vous avez déjà faites pendant l'année et des actions qui sont à venir ?
Ben, on a commencé en début d'année, du coup, mois septembre, avec les journées d'NT, puis ensuite les soirées d'NT, pour accueillir les L1 comme il se doit. Et après, qu'est-ce qu'on a fait après ? Non, on a fait des ciné-débats, on a fait des soirées quiz, on a fait des soirées, entre guillemets, un peu plus de beuverie dans les bars avec les Géolions. On en a fait aussi au Gambrinus. Donc oui, non, si on a fait pas mal de trucs pour l'instant. Donc après.
Du coup, c'était des quiz sur quoi ? Je te laisse en répondre. Mais...
C'était sur des thèmes plus ou moins différents. On a fait un quiz sur Game of Thrones cette année.
Game of Thrones, ouais. La Casa des Papels.
Ouais,
je crois que c'est les deux qu'on a fait.
On a fait Game of Thrones et Casa des Papels, ouais.
Ouais. Ah oui, pour les événements qu'il y a justement à venir, donc le 7 février, il y a soirée au Gambrinus, entrée gratuite. Hein, on ne va pas se mentir, le Gambrinus est toujours gratuit, ils sont cool là-bas, mais vous amusez. Le 12 février, au hall du bâtiment Jean Jaurès, à partir de 10h30, il y a une vente de crêpes pour la Chandeleur, il ne faut pas l'oublier. Le soir, nous avons donc un Zinqué Histoire sur l'immigration hispanique aux États-Unis et la notion de frontière au COSI. Le 26 février, nous avons un ciné-club qui se déroulera donc au bâtiment Pascal Ambic de l'Université Champollion, salle 107, sur les suffragettes. Ensuite, le 19 mars, si je ne dis pas de bêtises, ce sera un autre ciné-club sur le dernier roi d'Écosse. Et on terminera le 16 avril avec un ciné-club sur une merveilleuse histoire du temps, sur la vie de Stephen Hawking.
Radio Champollion. La radio étudiante de l'université Champollion d'Albi.
Suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champollion.
Nous sommes toujours avec la présidente et la vice-présidente de History, donc l'association d'histoire de l'Institut universitaire Champollion d'Albi. Et vous êtes toujours sur Radio Champollion, sur Radio Albigès. Du coup, vous avez parlé un peu des quiz sur Game of Thrones, La Casa des Papels. Mais est-ce que vous auriez des séries ou des films historiques à nous conseiller, ou même des contre-exemples du coup des séries ou des films qui sont complètement irréalistes par rapport à l'histoire ?
Alors
il y a de la matière.
Pour les contres, justement.
Je crois qu'on pense au même là.
Les contres, alors évitez 300.
Oui, 300, évitez-le. Surtout, je parle surtout au L1 parce que je suis sûre que Monsieur Bure vous en a pas encore parlé. Mais
Monsieur
alors,
Bure qui est le professeur d'antiquité.
Voilà, Monsieur Bure, le professeur d'antiquité, il a horreur de ce film. Nous, il nous en a parlé au moins, mais peut-être 5 fois dans le semestre pour le critiquer et nous dire que ce film était une daube. Donc vraiment, s'il y a un film que je vous déconseille, c'est celui-là. 300, ne le regardez surtout pas.
Il y a ça et Au nom de la rose, On ne croirait pas comme ça, mais pour ceux qui auront la chance d'aller donc en deuxième année d'histoire et qui feront un parcours centré, on a une option qui s'appelle Histoire de l'art. Et justement, il y a tellement d'erreurs sur les décors. Enfin, c'est impressionnant. Donc franchement, faites attention quand vous regardez un film d'histoire, c'est hyper important. À la limite, les étudiants d'histoire pourraient faire passer, si l'université est d'accord, on pourrait mettre une liste de films... justement
prohibé
ou justement les films qu'il faut voir si vous voulez venir en histoire. Il y a des bons films quand même, je dis pas le contraire, il y a des romans que vous pouvez lire qui sont assez historiques,
comme quoi
1492, qui est un très bon roman si vous avez du temps à perdre dans le sens en troisième année vous l'oubliez parce que vous avez vraiment pas le temps. Faut apprendre en fait à faire une sélection quand vous rentrez en histoire, c'est super important. Faut apprendre à faire une sélection de livres, faut pas lire n'importe quoi et faut arrêter de prendre des auteurs que vous trouvez partout qui font je sais pas combien de livres dans l'année. Enfin, faut vraiment faire attention, vérifier toujours l'auteur que vous empruntez. Par exemple, en médiéval, vous ne pouvez pas passer à côté de Georges Duby ou Le Goff, c'est important. Donc, franchement, il faut faire super gaffe quand vous rentrez en histoire, ne lisez pas n'importe quoi, regardez vraiment qui sont les auteurs, en fait. C'est super important.
Du coup, moi, je pensais à différentes séries, comme par exemple Versailles récemment ou même Rome avant. Du coup, est-ce que ce sont les séries qui sont à peu près historiques ou elles ont fait des détours pour la fiction?
Rome, je sais pas, parce que j'ai pas entendu parler, j'ai pas rien cherché dessus, mais Versailles, pour avoir plusieurs amis qui ont regardé, qui m'ont conseillé la série, il faut vraiment que je lui mette. C'est pas, de ce que j'ai entendu, c'est plutôt bien fait. Après, faudrait voir, faut chercher, c'est ça en fait. Le problème, c'est que quand vous voulez savoir si une série, un film, un livre ou n'importe quoi, en fait, c'est bien niveau historiquement parlant, il faut chercher sur internet, il faut regarder s'il y a des comptes rendus, il faut regarder s'il y a des historiens qui ont écrit des pseudo-articles dessus dans des revues de vulgarisation, il faut regarder les avis aussi des gens qui regardent, des téléspectateurs ou des lecteurs ou je sais pas comment on peut appeler ça sinon voilà, mais faut surtout regarder l'avis des gens et regarder l'avis des professionnels en fait. C'est, après nous on peut vous donner des recommandations plus ou moins subjectives,
les Borgia
par exemple. Merci.
C'est une très bonne série historique au final, elle est très bien faite, ça suit à peu près l'histoire,
mais non, il faut vraiment regarder, faire attention à ce qu'on regarde et chercher, c'est ça. Par exemple, pour donner un exemple tout con, Kaamelott, c'est une série humoristique, mais vous rigolez vraiment. Mais honnêtement, niveau historique, cette série-là, elle est vraiment bien faite. Il y a des historiens qui travaillent avec les réalisateurs et les scénaristes et qui font vraiment énormément de choses cool. Madame Victor, qui est la prof de médiéval, nous donne, surtout en L1, elle vous donne beaucoup de références avec Kaamelott, justement, pour que vous arriviez à assimiler les événements et tout ça. Donc, par exemple, tu vois, ça, c'est une bonne série. Après,
c'est tout bête, mais il y a des BD aussi qui sont assez bien faits. Par exemple, je vais dire un truc tout bête, c'est pour les Allemands, hein. Je m'adresse aux Allemands. Vous allez bientôt voir, ou si vous ne l'avez pas vu, c'est la fête royale. C'est un événement horrible en médiéval. Vous allez pleurer, parce que pour le comprendre, même vos stabilos et vos crayons dans la trousse ne suffiront pas. Je vous conseille une BD, c'est Frédégonde, c'est tout bête. Ça vous reprend le début de la fête royale et vous allez tout comprendre, franchement.
Par rapport aux films que vous diffusez pendant les soirées ciné,
les
ciné-clubs, merci. C'est des films historiques ou c'est des films coup de cœur que vous avez envie de partager?
Un peu des deux en fait.
Techniquement, c'est censé être des films historiques ou des films qui peuvent être critiqués justement. Enfin, le but, c'est justement d'ouvrir un débat. Donc le premier qu'on a fait, ça a été Colonia.
Colonia avec Emma Watson.
C'était à base historique, de fait réel, mais on a quand même ouvert le débat sur pas mal de sujets qui étaient traités dans le film. Là, le prochain, donc, c'est Les Suffragettes, qui a une base historique aussi. Le deuxième, dernier roi d'Écosse, c'est base pseudo-historique, hein. Je vous le dis tout de suite. Et le dernier, c'est sur Stephen Hawking. C'est une biographie, c'est à partir de son histoire à lui. Donc clairement, c'est plus récent peut-être, mais c'est pas critiquable ce film-là. Vous avez juste pleuré. C'est pas critiquable.
De toute façon, après, dans les films historiques, même si on propose des films qui sont historiques, il y aura toujours une part qui sera scénarisée. Donc, il y aura toujours des choses en soi qui seront à critiquer parce qu'il y a des choses en soi qui ne seront pas Enfin, il y a des choses, que ce soit dans les décors ou dans les costumes, dans les dialogues ou alors dans les faits historiques, qui seront pas, justes.
Il y a des choses qu'on peut pas retransmettre.
Voilà,
au
tu peux pas, tu peux pas tout retransmettre au cinéma parce qu'il y a des choses qui se passent en amont que ça prendrait trop de temps si tu le faisais en vrai. Puis il y a des choses que tu peux pas retransmettre au cinéma parce que c'est trop violent ou alors parce que ça plaira pas à l'auditeur ou enfin plein de choses comme ça. Donc il y a quand on vous dit qu'un film historique, c'est sur une bonne base historique, mais il faut se dire qu'il y a au moins la moitié des un quart ou la moitié de ce qui va être montré ou de ce qui va être dit qui va être faux.
Super production internationale, création originale Canal+.
Bienvenue à Versailles. Il était une fois
le roi,
un roi dont la grandeur et la gloire étaient sans égale.
Le jeune Louis XIV, à l'aube de sa splendeur.
Il est temps de leur montrer qui tu es vraiment.
Je sais qui je suis.
Un roi visionnaire comme vous ne l'avez jamais vu.
C'est ici que nous devons bâtir notre destin. Faire naître une nouvelle France.
Un univers flamboyant et rock'n'roll.
Nous devons mettre un terme à la construction de Versailles.
Leur roi part en guerre.
On se sent au chaud quand le soleil brille. Mais croyez-moi, dès qu'il en aura fini avec vous, toutes les lumières s'éteindront.
Versailles, la série.
Vous pensez que l'histoire est enjolivée dans tous les contenus audiovisuels ?
Oh oui, une bonne partie est enjolivée. C'est vraiment fait en sorte que ça plaise, en fait. Le but, c'est que ça plaise vraiment. Après, il y a certains événements historiques. Si on commence à en parler, vous allez trouver ça chiant, en fait. Alors, si je vous mets pas un petit peu d'action, méchante, mais une ou deux scènes de cul dedans, vous allez totalement décrocher. On va pas se mentir. Donc, c'est vraiment... Enfin, je dirais pas qu'ils sont tout le temps enjolivés, que c'est tout le temps... Mais c'est quand même... C'est à l'américaine, quoi.
Ah oui, justement, oui. Et par rapport donc à ces émissions connues, donc Secret d'Histoire, tout ça.
Oh, alors on va mettre un point de suite sur Stéphane Bern. Stéphane Bern n'est pas un historien. C'est un journaliste qui, en plus, parce que j'ai fait des recherches sur lui l'autre jour, il a fait une école de commerce et il a fini du coup journaliste. Et après, je sais pas comment il s'est démerdé pour faire des émissions d'histoire. Mais il est arrivé là. Alors comment, on sait pas, hein. Mais ce n'est pas un historien. Il faut arrêter. En plus, il est royaliste, ce mec.
Voilà. Et vous pensez, enfin, tu penses que parce qu'il a pas fait d'études d'histoire, il est pas légitime, alors qu'il est peut-être entouré par des équipes d'historiens qui sont là pour. C'est pas lui qui écrit, je pense, ces secrets d'histoire.
Je pense pas.
Et tu penses qu'il est pas légitime pour le raconter ?
En fait, le souci, c'est que c'est peut-être pas lui qui travaille sur ces émissions, mais le souci, c'est en fait c'est l'image qui va s'en donner. C'est-à-dire que plein de gens vont penser que ce monsieur est historien, qu'il s'y connaît, qu'il a fait des recherches, des thèses, des machins, alors que non. Et le problème, c'est que Stéphane Bern, tu peux pas savoir non plus si ce qu'il va raconter, ça va être à 100% vrai. Puisque quand c'est un historien, entre guillemets, qu'on va considérer comme un classique, comme par exemple Le Goff en médiéval, Le Goff, tu vas pas le remettre en question. Non, clairement, ça c'est pas quelque chose que tu feras. Même les profs le remettent pas en question. Alors que Stéphane Bern, le souci c'est que tu vas pouvoir te dire, bon alors lui il a dit ça, mais je pense pas que ce soit vrai, ou alors je pense pas que ça a été fait de cette manière, ou alors il a peut-être enjolivé la réalité, ou alors il a déformé, on ne sait pas. Mais
le but c'est de la vulgarisation.
Voilà, c'est de la vulgarisation en fait.
C'est comme, faut faire attention aux magazines que vous achetez pour de l'histoire. Ouais. Il y a toujours, par exemple, je vais dire un tout bec, il y avait Historia avant, et maintenant il y a l'Histoire comme magazine. Il faut faire attention qui écrit dedans. Il faut surtout avoir toujours l'esprit critique parce que c'est des articles, quoi. Ça fait 5 pages. Des fois, ils font, par exemple, Benassar avait fait un article sur justement les empires coloniaux au XVIe siècle qui faisait 3 pages et qui te survolait quand même tous les empires coloniaux, c'est-à-dire à partir de Christophe Colomb jusqu'à la fin des empires coloniaux, c'est-à-dire XVIIe, XVIIIe siècle, en 3 pages. C'est pas faisable. Il y a beaucoup de trucs à critiquer. Donc c'est des outils de vulgarisation pour les gens qui ne t'y connaissent pas. C'est super intéressant. Mais pour des historiens, faites attention. C'est vraiment, quand vous rentrez en licence d'histoire, n'hésitez pas, genre par exemple sur la journée porte ouverte qui arrive bientôt, je crois que c'est samedi 16 février, l'université ouvre ses portes justement. N'hésitez pas à demander, si vous voulez rentrer en histoire, à venir voir des étudiants d'histoire parce qu'il y en a qui seront là. Et justement, à leur demander à la limite quel auteur lire ou s'ils ont des conseils à nous donner. Enfin, le but, c'est si on est là pour accompagner les gens aux portes ouvertes, c'est justement pour répondre à leurs questions, s'ils en ont. déjà pour commencer, et pour les aider au mieux à se préparer justement à l'année qui va arriver, quoi.
Mais du coup, quel est le risque de présenter l'histoire de manière orientée ou subjective, du coup ? On parlait de Stephen Bern.
En fait, c'est pas un risque en soi, en fait. C'est de la vulgarisation. Donc, c'est-à-dire que si vous aimez bien l'histoire et que, je vais vous dire une connerie, le week-end, vous avez entre guillemets du temps à perdre et vous aimez bien Secret d'Histoire et que vous allez regarder parce que vous aimez bien cette émission, il y aura pas de souci, en fait, parce que ça, vous allez avoir autre chose à faire à côté, parce que c'est pas votre boulot, parce que c'est pas vos études, etc. Donc, en soi, il n'y a pas de soucis, c'est juste que si vous voulez, vous, pas en étant en étude d'histoire, il faut approfondir énormément les choses, parce que c'est
des sources.
Oui, les sources, surtout les sources. Merci Nice. Il faut approfondir les choses, parce que ça, c'est des trucs extrêmement vulgarisés qui rentrent pas dans les détails. Et le souci, c'est que vous pouvez pas, par exemple, vous fonder, approfondir votre cours juste avec Secret d'Histoire, quoi. C'est pas possible.
Oui, mais du coup, vu que, bon, voilà, c'est connu, mais Stephen Bern, du coup, est un royaliste, il est très proche de la famille des Orléans. Mais du coup, il n'y aurait pas un risque de qui volontairement ou involontairement, il donne une image très brillante de la royauté, sans pour autant inclure tous les aspects négatifs.
Alors après, s'il fait son boulot correctement, techniquement, non, il n'y a pas de problème. Après, comme on l'a dit, je pense que pour les étudiants d'histoire, prenez des pincettes. Vraiment, avec ce genre d'émission, faites attention. Il ne donne pas de source, il ne donne pas d'historien, il n'en nomme pas, quasiment pas. Il ne dit pas à la fin, bah tiens, je vous parlais, je ne sais pas moi, de Louis XIV, j'ai utilisé tel auteur qui a fait sa thèse dessus. Donc déjà d'une, vous n'avez pas ça, donc déjà d'une, vous ne pouvez pas vérifier. Donc franchement, c'est vraiment passe-temps. C'est vraiment un passe-temps, c'est vraiment pas une émission qu'il faut suivre à la lettre, contrairement à ce que propose par exemple France Culture, qui propose La Fabrique de l'Histoire, justement, ou Carbone 14. C'est vraiment des émissions que vous pouvez suivre et croire, entre guillemets, au pied de la lettre, parce que ce sont des historiens qui sont interviewés, c'est des gens qui ont fait une licence d'histoire, qui ont eu leur doctorat, qui ont fait une thèse sur le sujet. Donc franchement, c'est pas du tout comme Stephen Bern qui a décidé peut-être du jour au lendemain dire ben, je vais faire Secret d'Histoire parce que l'histoire c'est ma passion. Enfin, c'est comme vous aimez la cuisine, mais du jour au lendemain vous n'allez pas rentrer au Ritz pour préparer les repas. Enfin, c'est un peu le même principe, faut faire attention, c'est des trucs de vulgarisation.
Vous écoutez toujours Radio Champeau sur Radio Albigès. Une petite pause musicale pour rester dans le thème. On en parlait tout à l'heure, la série Game of Thrones revient en 2019. C'est peut-être la série et la saison la plus attendue, puisque c'est la dernière saison, celle qui est censée clôturer l'histoire. Elle arrive le 19 avril et les fans l'attendent avec impatience, on le sait. Pour vous faire patienter, on vous propose d'écouter un extrait de la bande originale, une très belle bande originale qui a sûrement contribué au succès de cette série. Allez, on écoute ça et on se retrouve juste après avec les représentantes de l'association Hit Story, interrogé par Alice et Guillaume pour Radio Champeau. Thank you.
la frontière entre l'histoire entre guillemets racontée, donc où on donne son point de vue, et l'histoire vraiment en tant que science est assez mince, quoi.
En fait, on pense souvent qu'un historien, quand il va faire une thèse ou alors quand il va rédiger des ouvrages, etc., il va être complètement neutre. À la base, un historien est censé être neutre dans tout ce qui est dans tous les travaux et toutes les recherches qu'il va mener. Mais le souci, c'est qu'il ne l'est jamais vraiment. Donc, pour Stéphane Bern, qui n'est pas un historien, je le rappelle, ça va être la même chose aussi. Il est royaliste, donc il va vouloir donner peut-être un aspect positif de la royauté ou... Enfin, de son ensemble là. Mais après, qui s'y cache par exemple les parties un peu plus noires ou les parties plus sombres de ce qui a été fait à côté, c'est que c'est vraiment, pour le coup, c'est du travail qui est mal fait, parce qu'un historien normalement est censé, même s'il n'est pas véritablement neutre, montrer les parties positives et négatives du sujet qu'il traite.
Après, il y a des historiens, on va pas se mentir, qui ont fait des bouquins qui ont fait énormément polémique et qui ne sont pas du tout à lire. Enfin, de toute façon, vous le voyez en tant qu'étudiant d'histoire, ou même des gens lambda, en fait, des gens qui ne sont pas forcément en histoire. Quand vous prenez un article, je vais vous dire un truc tout bête. Sylvain Guggenheim a fait un livre qui s'appelle Aristote au Mont-Saint-Michel.
Et dans ce livre, je ne sais pas du tout qui c'est.
C'est un historien, donc c'est un historien médiéviste, justement, et il est très très connu, il est très très respecté dans ce milieu-là. Et il a fait donc ce livre Aristote au Mont-Saint-Michel qui a été une daube, enfin c'est du n'importe quoi. Il est parti du principe que toute la France et l'Europe occidentale s'est construite toute seule. Il n'y a jamais eu d'apport des musulmans, des arabes, des chinois, des juifs, on n'a rien eu de leur part. C'est-à-dire que les mathématiques, on les aura inventées tout seuls. Enfin, il est quand même respecté, mais il a sorti, excusez-moi du mot, mais de la merde. Enfin, ça se fait pas, faut faire quand même attention. Et puis même quand vous allez lire l'article, de toute façon, vous allez le voir tout de suite, hein, quand vous commencez à lire que les Arabes ne nous ont rien apporté au niveau mathématique. Même si vous ne faites pas d'histoire, vous allez commencer à vous dire, quand même. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas donner tout le temps, dire tout le temps, oui, les historiens, ce qu'ils disent, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tous les historiens sont critiquables. Tous les historiens sont critiquables. Ça, c'est normal. Mais après, quand tu critiques un historien, il faut que tu sois sûr de tes quilles, quoi.
Juste, du coup, à partir de ce point-là, est-ce qu'on peut dire que l'histoire est une science exacte ?
Non, pas du tout. C'est pas une science exacte parce qu'on se base sur des sources, c'est-à-dire des documents d'archives que l'on trouve, par exemple, dans toutes les archives. Hein, vous avez, par exemple, à Albi, les archives départementales du Tarn, et qui se trouvent à la Madeleine. Je sais pas si vous voyez à peu près où c'est. Et dedans, vous avez donc des documents datant. Le plus ancien, c'est du 9e siècle, jusqu'à nos jours. Donc les historiens se basent sur ces trucs-là, mais il y a des archives, par exemple, l'an dernier, la personne qui a gagné un prix justement sur le TER archive que nous avons, pour Castres, c'était Manon Anglès, qui a fait donc l'incendie de Castres. Elle s'est retrouvée face à un problème de source, c'est-à-dire que les archives avaient brûlé lors de l'incendie, donc c'était un peu compliqué. Donc c'est...
Ça c'est ironique.
Voilà, les archives ont brûlé, donc justement c'était un peu dur pour elle de travailler sur ce sujet-là. Bon, elle a trouvé des sources qui ont été écrites par des personnes qui habitaient à Albi ou qui habitaient aux alentours de Castres, qui ont pu conserver ces sources-là. Donc c'est toujours après, pour la période contemporaine, c'est-à-dire à partir de Napoléon, c'est un peu plus facile parce que c'est beaucoup de textes imprimés. Enfin, on a souvent gardé les archives, par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale. Vous excitez pas, vous pouvez pas écrire dessus. Enfin, ça a quasiment été traité sous tous les angles, la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Mais sur des travaux, par exemple, sur la Rome antique, c'est-à-dire quand vous êtes à moins 4 siècles avant Jésus-Christ, vous n'avez pas de source. C'est ça le problème. Vous avez des petits morceaux de tablettes qui ne sont pas plus grands, qui doivent faire la taille d'une main. Et vous devez travailler et construire une histoire dessus. Donc, ce n'est pas forcément une science concrète, dans le sens où on n'a pas forcément tout le temps les sources qu'il nous faut pour raconter l'histoire. Donc c'est pour ça que en licence d'histoire, on nous dit bien, en antique, c'est vraiment, on pense que, et là, les historiens, ils disent, on pense que ça, grâce aux trucs les fouilles archéologiques qu'on a menées, grâce aux sources qu'on a. Après, il y a d'autres matières, par exemple la contemporaine, donc justement, où là, c'est un peu plus sûr, parce que c'est des trucs qui sont passés récemment, et on a beaucoup, beaucoup gardé de sources dessus.
Mais comment est-ce qu'on peut déterminer si ces sources-là sont fiables ou si elles sont parties de quelqu'un qui voulait donner son point de vue et savoir si, enfin, comment est-ce qu'on peut savoir si cette base est neutre, historiquement réelle, ou si c'est juste quelqu'un qui l'a raconté de son point de vue en faisant passer son message.
Mais on ne peut pas savoir.
Et déjà,
Vas-y.
On peut pas vraiment savoir dans le sens où et la mesure que on ne vit pas à la même période que la personne qui a écrit la source. Par exemple, je vais vous dire une bêtise. Si par exemple on cherche à étudier les rapports commerciaux entre les musulmans et les chrétiens. Au Moyen Âge, au XIIe siècle, et qu'on prend par exemple des récits de voyage, ça va être clairement le point de vue de quelqu'un qui va juste vouloir décrire la chose d'un point de vue que quelqu'un lui aura demandé de raconter. Vous comprenez ce que je veux dire ou c'est vraiment trop. Voilà, donc on peut pas vraiment savoir si quand quelqu'un écrit une source, la personne en soi fait ça parce qu'elle le pense vraiment, ou si c'est on lui a demandé d'écrire ça parce qu'on lui a foutu un couteau sous la gorge. On peut pas savoir.
De toute façon, en histoire, on a notre enseignant, Monsieur Grenet, donc, qui est enseignant d'histoire moderne, donc justement à la fac, qui nous a quand même dit quand vous avez un document, une source, si vous posez la question de qui écrit, pour qui il écrit ? Parce que, clairement, au XVIIe ou XVIIIe siècle, le papier coûte extrêmement cher. Vous n'allez pas écrire pour raconter votre journée. C'est vraiment contrairement à l'époque contemporaine où même maintenant, vous allez écrire sur un papier, ben voilà, aujourd'hui, ben, il pleut, il ne fait pas beau à Albi, c'est triste et j'ai les pieds mouillés. À l'époque moderne, vous n'écrivez pas ce genre de choses. C'est vraiment des trucs importants. C'est vraiment, il faut voir qui l'écrit. Pour qui il écrit et dans quel contexte il écrit. Donc après, c'est le travail de l'historien justement de prendre différentes sources et mettre justement de les comparer, de voir en sorte qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, quels sont les points communs et justement faire attention. Par exemple, à l'époque médiévale, c'est les nobles qui écrivent. Donc ils vont nous raconter comment vivent les gens de classe du bas peuple, comment ils vivent le bas peuple. Donc clairement, on sait déjà que oui.
Justement, si c'est les nobles qui écrivent, comment ils doivent savoir comment vit le bas peuple?
Ben justement, par exemple. Vous avez le système féodal qui est encore en place justement au début du Moyen-Âge. Et justement, donc c'est un paysan qui va prêter serment à son seigneur et qui va lui dire... Allez, c'est reparti sur ce débat-là. Et qui va lui dire, mais je te jure fidélité, je suis prêt à te protéger. En échange, donne-moi un lopin de terre. C'est ce que le seigneur fait. Mais le seigneur, lui, comme il peut être, la plupart du temps, il ne peut pas travailler parce qu'il est noble. Et que les nobles n'ont pas le droit de travailler, je le précise. Si vous êtes noble, vous ne pouvez pas travailler. Mais il trouve la journée longue, donc il se promène. Donc il voit ce que fait son paysan. Donc la plupart du temps, ce sont des nobles qui écrivent sur ce qui se passe dans leur terre. Donc par exemple, c'est un truc tout bête, ben Michel, qui est à mon service, a volé la vache de Paul, le seigneur d'à côté. Donc il y a eu un procès. Mais pourtant, Michel, il est gentil. Donc vous voyez, c'est vraiment... On a une vision par le haut de la société. Donc... Voilà, une vision par le haut de la société. Donc c'est pour ça qu'il faut confronter les sources. La plupart du temps, si vous avez la possibilité, quand vous traitez un sujet, de confronter les sources, faites-le.
Du coup, merci Neis, la présidente de l'association History, avec Noémie, sa vice-présidente, pour être venue répondre à nos questions dans le studio de Radio Champeau. On vous rappelle que ce soir, 7 février, se tiendra au bar Le Gambrinus, une soirée du coup pour l'association It Story.
Et n'oubliez pas le 12, le Zinc Histoire au Cosy à 21h, s'il vous plaît.
Et voilà, rendez-vous est pris. Et ben merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Merci.
Radio Champeau,
la radio étudiante de l'université Champollion d'Albi.
Suivez-nous sur notre page Facebook Radio Champeau.
Et maintenant, Alice, c'est le moment de l'agenda. Du coup, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette émission ?
Alors moi, je vais te proposer vendredi 8 février, demain à Saint-Sulpice, il y a un concert qui est organisé par l'association Algorithme, donc avec Oli, Rubik's Cube et I'm Mine. Donc l'entrée est à 12€ sur place, mais vous pouvez tenter de gagner vos places sur Radio Albigès en appelant au 05 63 60 60 36. Et par contre, si vous tombez sur le répondeur, il faut laisser un message avec vos coordonnées et la soirée à laquelle vous voulez participer. Mais bonne chance.
Et puis moi, je vous parlais d'un café géo qui se tiendra le 13 février au bar Les Cordeliers à 18h30, qui portera autour de la question de la prison, donc la prison, paradoxe d'un espace d'enfermement et de réinsertion. Un café géo qui sera tenu par Olivier Mignot, qui est donc maître de conférences en géographie à l'université Paris-Sorbonne. Et bien sûr, l'entrée est gratuite. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission de Radio Champeau. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles émissions. N'oubliez pas de suivre notre page Facebook Radio Champeau pour toutes les informations, mais également de suivre la page Facebook de Hit Story pour être au courant de tous leurs événements. Au revoir.